Le marchand de Venise par William Shakespeare. Personnage. Le duc de Venise, le prince du Maroc, le prince d'Aragon, tous trois amoureux de Portia, Antonio, marchand de Venise, Bassanio, son ami, Salanio, Graziano, Salarino, ami d'Antonio et de Bassanio, Lorenzo, amant de Jessica, Shylock, juif, Tubal, autre juif ami de Shylock, Lancelot Gobbo, jeune lourdeau domestique de Shylock, le vieux Gobbo, père de Lancelot, Leonardo, domestique de Bassanio, Balthazar, Stefano, domestique de Portia, un valet, Portia, riche héritière, Nerissa, suivante de Portia, Jessica, fille de Shylock. Sénateur de Venise, officier de la cour de justice, un geôlier, valets et autres personnes de suite. La scène est tantôt à Venise, tantôt à Belmont, château de Portia. Acte 1er, scène 1. Dans une rue de Venise, entre Antonio, Salarino et Salagno. Antonio. De bonne foi, je ne sais pourquoi je suis triste. J'en suis fatigué. Vous dites que vous en êtes fatigué aussi. Mais comment j'ai pris ce chagrin? Où je l'ai trouvé, rencontré? De quoi il est fait? D'où il est sorti? Je suis encore à l'apprendre. La tristesse me rend si stupide que j'ai peine à me reconnaître moi-même. Salagno. Votre âme est agitée sur l'océan. Là où, sous leurs voiles majestueuses, vos larges vaisseaux, seigneurs et riches bourgeois des flots, dominent sur le peuple des petits navires marchands qui les saluent. Seigneurs et riches bourgeois des flots, dominent sur le peuple des petits navires marchands qui les saluent, inclinant, lorsqu'ils passent près d'eux, le tissu de leurs ailes. Salarine. Croyez-moi, monsieur, si j'avais une pareille mise dehors, la plus grande partie de mes affections serait en voyage à la suite de mes espérances. Je serai toujours à arracher des brins d'herbe pour savoir de quel côté souffle le vent, à chercher sur les cartes les ports, les môles et les routes, et chaque objet qui pourrait me faire craindre un malheur pour ma cargaison ne manquerait certainement pas de me rendre triste. Salagno. En soufflant sur mon bouillon pour le refroidir, mon haleine me donnerait un frisson. Je songerais à tout le mal qu'un trop grand vent pourrait causer sur la mer. Je ne pourrais voir un sablier s'écouler que je ne songeasse au banc de sable, au bas-fond, où je verrais mon riche André engravé, abaissant son grand mât plus bas que ses flancs pour baiser son tombeau. Pourrais-je aller à l'église et voir les pierres de l'édifice sacré sans me rappeler aussitôt les rochers dangereux qui, en effleurant seulement les côtés de mon cher vaisseau, disperseraient toutes mes épices sur les flots et habilleraient de mes soies les vagues en fureur. En un mot, sans penser que riche de tout cela en cet instant, je pus l'instant d'après n'avoir plus rien. Puis-je songer à tous ces hasards et ne pas songer en même temps qu'un pareil malheur, s'il m'arrivait, me rendrait triste? Tenez, ne m'en dites pas davantage. Je suis sûr qu'Antonio est triste parce qu'il songe à ses marchandises. Antonio. Non, croyez-moi. J'en grâce au sort, toutes mes espérances ne sont pas aventurées sur une seule chance, ni réunis en un même lieu, et ma fortune entière ne dépend pas des événements de cette année. Ce ne sont donc pas mes marchandises qui m'attristent. Salarino. Il faut alors que vous soyez amoureux. Antonio. Fuis donc. Salarino. Vous n'êtes pas amoureux non plus. En ce cas, souffrez qu'on vous dise que vous êtes triste parce que vous n'êtes pas gai. Et il vous serait tout aussi aisé de rire, de danser et de dire que vous êtes gai, parce que vous n'êtes pas triste. Par Janus au double visage, la nature forme quelquefois d'étranges personnages. les uns ne laissant jamais qu'entrevoir leurs yeux à travers leurs paupières à demi fermées, et riant comme des perroquets à la vue d'un joueur de cornemuse, et d'autres d'une mine si renfrognée qu'ils ne montreraient pas seulement leurs dents en façon de sourire, qu'en Nestor en personne jurerait que la plaisanterie est de nature à faire rire. Entre Bassanio, Lorenzo, Graziano. Salanio. Voici Bassanio, votre noble allié, avec Graziano et Lorenzo. Nous vous laissons en meilleure compagnie. Salarino. Je serais volontiers resté jusqu'à ce que je vous eusse rendu joyeux, si de plus digne ne m'avait prévenu. Antonio. Vous avez une grande place dans mon affection, mais je suppose que vos affaires vous appellent et que vous saisissez l'occasion de nous quitter. Salarino. Bonjour, mes bons seigneurs. Bassanio. Dites-moi tous deux, mes bons seigneurs, quand rirons-nous? Répondez, quand? Vous devenez excessivement rare. Cela durera-t-il? Salarino. Nous nous ferons un plaisir de prendre votre temps. Salanio et Salarino sortent. Lorenzo. Seigneur Bassanio, puisque vous voilà avec Antonio, nous allons vous laisser ensemble. Mais à l'heure du dîner, souvenez-vous, je vous prie, du lieu de notre rendez-vous. Bassanio. Je n'y manquerai pas. Graziano. Oh, vous n'avez pas bon visage, seigneur Antonio. Tenez, vous avez trop d'affaires en ce monde. C'est en perdre les avantages que de les acheter par trop de soins. Vous êtes étonnamment changé, croyez-moi. Antonio. Je prends le monde pour ce qu'il est, Graziano. Un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Le mien est d'être triste. Graziano. Le mien sera donc celui du fou. Que les rides de la vieillesse viennent au milieu de la joie et du rire, que le vin échauffe s'il le faut mon foie, mais que d'affaiblissements soupirs ne viennent point glacer mon cœur. Pourquoi un homme qui a du sang chaud dans les veines demeurerait-il immobile comme son grand-père taillé en albâtre? Pourquoi dormir quand on veille et se donner la jaunisse à force de mauvaise humeur? Je te le dirai, Antonio. Je t'aime et c'est mon amitié qui part. Il y a une espèce de gens dont le visage se boursouffle au dehors et s'enveloppe comme l'eau dormante d'un étang et qui se tiennent dans une immobilité volontaire pour se parer d'une réputation de sagesse, de gravité, de profondeur d'esprit et qui semblent vous dire « Monsieur, je suis un oracle. Quand j'ouvre la bouche, empêchez qu'un chien n'aboie. » Or, mon cher Antonio, je connais de ces gens-là qui ne doivent qu'à leur silence leur réputation de sagesse et qui, j'en suis sûr, s'ils parlaient, serait capable de damner plus d'une oreille, car en les écoutant, bien des gens traiteraient leurs frères de fous. Je t'en dirai plus long une autre fois. Mais ne va pas te servir de l'appât de la mélancolie pour pêcher ce goujon des sots, la réputation. Allons, viens, cher Lorenzo. À Antonio. Adieu pour un moment, je finirai mon sermon après. Lorenzo, à Antonio. Oui, nous allons vous laisser jusqu'à l'heure du dîner. Il faudra que je devienne un de ces sages muets, car Graziano ne me laisse jamais le temps de parler. Graziano. C'est bon. Tiens-moi encore compagnie 2 ans et tu ne connaîtras plus le son de ta voix. Antonio. Adieu. Il me rendrait bavard. Graziano. Tant mieux, ma foi, car le silence ne convient qu'à une langue de bœuf fumé et à une fille qui n'est pas de défaite. Graziano et Lorenzo sortent. Antonio. Est-ce cela dire quelque chose? Bassanio. Graziano est l'homme de Venise qui débite le plus de rien. Ce qu'il y a de bon dans tous ses discours est comme 2 grains de blé cachés dans 2 boisseaux de son. On les cherche un jour entier avant de les trouver, et quand on les a, ils ne valent pas la peine qu'on a prise. Antonio. Fort bien. Dites-moi, quelle est donc cette dame auprès de laquelle vous avez juré de faire un secret pèlerinage et que vous m'avez promis de me nommer aujourd'hui? Bassanio. Vous n'ignorez pas, Antonio, dans quel délabrement j'ai mis mes affaires, en voulant faire une plus haute figure que ne pouvait me le permettre longtemps ma médiocre fortune. Je ne m'afflige pas maintenant d'être privé des moyens de soutenir ce noble état, mais mon premier souci est de me tirer avec honneur des dettes considérables que j'ai contractées par un peu trop de prodigalité. C'est à vous, Antonio, que je dois le plus, tant en argent qu'en amitié. Et c'est de votre amitié que j'attends avec confiance les moyens d'accomplir tous mes desseins et les plans que je forme pour payer tout ce que je dois. Antonio. Je vous prie, mon cher Bassanio, de me les faire connaître. Et s'il se renferme, comme vous le faites vous-même, dans les limites de l'honneur, soyez sûr que ma bourse, ma personne et tout ce que j'ai de ressources en ce monde sont à votre service. Bassan. Lorsque j'étais écolier, dès que j'avais perdu une de mes flèches, j'en décochais une autre dans la même direction, mettant plus d'attention à suivre son vol afin de retrouver l'autre, et en risquant de perdre les deux, je les retrouvais toutes deux. Je vous cite cet exemple de mon enfance parce que je vais vous faire parler le langage de la candeur. Je vous dois beaucoup, et comme il arrive à un jeune homme livré à ses fantaisies, ce que je vous dois est perdu. Mais si vous voulez risquer une autre flèche du même côté où vous avez lancé la première, je ne doute pas que par ma vigilance à observer sa chute, je ne retrouve les deux, ou du moins que je ne vous rapporte celle que vous aurez hasardée la dernière, en demeurant avec reconnaissance votre débiteur pour l'autre. Antonio. Vous me connaissez, c'est donc perdre le temps que de tourner ainsi autour de mon amitié par des circonlocutions. Vous me faites certainement plus de tort en doutant de mes sentiments que si vous aviez dissipé tout ce que je possède. Dites-moi donc ce qu'il faut que je fasse pour vous et tout ce que vous me croyez possible. Je suis prête à le faire, parlez donc. Bassan. Il est dans Belmont une riche héritière. Elle est belle, plus belle que ce mot, et douée de rares vertus. J'ai quelquefois reçu de ses yeux de doux messages muets. Son nom est Portia. Elle n'est pas moins estimée que la fille de Caton, la Portia de Brutus. L'univers entier connaît son mérite, car les quatre vents lui amènent de toutes les côtes d'illustres adorateurs. Ses cheveux dorés comme les rayons du soleil tombent en boucles sur ses tempes comme une toison d'or. Ce qui fait de sa demeure de Belmont un rivage de Colchos, où plus d'un Jason se rend pour la conquérir. Oh mon Antonio, si j'avais seulement le moyen d'entrer en concurrence avec eux, j'ai dans mon âme de tels présages de succès qu'il est hors de doute que je l'emporterai. Antonio, tu sais que toute ma fortune est sur la mer, que je n'ai point d'argent, ni la possibilité de rassembler une forte somme. Va donc essayer ce que peut mon crédit dans Venise. Je l'épuiserai jusqu'au bout pour te donner les moyens de paraître à Belmont et d'obtenir la belle Portia. Va, informe-toi où il y a de l'argent. J'en ferai autant de mon côté, et je ne doute point que je n'en trouve par mon crédit ou par le désir qu'on aura de m'obliger. Ils sortent. Scène 2. À Belmont, un appartement de la maison de Portia. Entre Portia et Nerissa. Portia. En vérité, Nerissa, mon petit individu est bien là de ce grand univers. Nerissa. Cela serait bon, ma chère madame, si vos misères étaient en aussi grand nombre que le sont vos prospérités. Cependant, à ce que je vois, on est aussi malade d'indigestion que de disette. Ce n'est donc pas un médiocre bonheur que d'être placé dans la médiocrité. Superflu blanchit de bonheur. Suffisance vit longtemps. Portia. Voilà de belles sentences, et très bien débitées. Nerissa. Elle serait encore meilleure mise en pratique. Portia. Et s'il était aussi aisé de faire qu'il l'est de connaître ce qui est bon à faire, les chapelles seraient des églises et les cabanes des pauvres gens des palais de princes. C'est un bon prédicateur que celui qui se conforme à ses sermons. J'apprendrai plutôt à 20 personnes ce qu'il est à propos de faire que je ne serais une des 20 à suivre mes instructions. Le cerveau peut imaginer des lois pour le sang, mais un tempérament ardent saute par-dessus une froide loi. C'est un tel lièvre que la folle jeunesse pour s'élancer par-dessus les filets du bon sens. Mais cette manière de raisonner n'est pas trop de saison lorsqu'il s'agit de choisir un époux. Choisir. Hélas, quel mot! Je ne puis ni choisir celui que je voudrais, ni refuser celui qui me déplairait. Et ainsi, il faut que la volonté d'une fille vivante se plie aux volontés d'un père mort. N'est-il pas bien dur, Nerissa, de ne pouvoir ni choisir ni refuser personne? Nerissa. Votre père fut toujours vertueux, et les saints personnages ont à leur mort de bonnes inspirations. Ainsi, dans cette loterie qu'il a imaginée, et au moyen de laquelle vous devez être le partage de celui qui, entre 3 coffres d'or, d'argent et de plomb, choisira selon son intention, vous pouvez être sûr que le bon choix sera fait par un homme que vous pourrez aimer en bonne conscience. Mais quelle chaleur d'affection sentez-vous pour tous ces brillants adorateurs qui sont déjà arrivés? Portia. Je t'en prie, dis-moi leur nom. À mesure que tu les nommeras, je ferai leur portrait, et tu devineras mes sentiments par ma description. Nerissa. D'abord, il y a le prince de Naples. Portia. Et c'est un véritable animal. Il ne sait parler que de son cheval et se targue comme d'un mérite singulier, de la science qu'il possède de le ferrer lui-même. J'ai bien peur que madame sa mère ne se soit oubliée avec un forgeron. Nerissa. Vient ensuite le comte Palatin. Portia. Il est toujours renfrogné, comme s'il vous disait « Si vous ne voulez pas de moi, décidez-vous. » Il écoute des contes plaisants sans un sourire. Je crains que dans sa vieillesse, il ne devienne le philosophe larmoyant, puisque jeune encore, il est d'une si maussade tristesse. J'aime mieux épouser une tête de mort, la bouche garnie d'un os, qu'un de ces deux hommes-là. Dieu me préserve de tous les deux. Nerissa. Que dites-vous du seigneur français, monsieur le bon? Portia. Dieu l'a fait. Ainsi, je consens qu'il passe pour un homme. Je sais bien que c'est un péché de se moquer de son prochain. Mais lui, comment? Il a un meilleur cheval que le Napolitain. Il possède à un plus haut degré que le comte Palatin la mauvaise habitude de froncer le sourcil. Il est tous les hommes ensemble sans en être un. Si un merle chante, il fait aussitôt la cabriole. Il va se battre contre son ombre. En l'épousant, j'épouserai en lui seul 20 maris. S'il vient à me mépriser, je lui pardonnerai, car me m'a-t-il à la folie, je ne le paierai jamais de retour. Nerissa. Que dites-vous de Fauconbridge, le jeune baron anglais? Portia. Vous savez que je ne lui dis rien, car nous ne nous entendons ni l'un ni l'autre. Il ne sait ni latin, ni français, ni italien, et vous pouvez bien jurer en justice que je ne sais pas pour 2 sous d'anglais. C'est la peinture d'un joli homme. Mais hélas, qui peut s'entretenir avec un tableau muet? Qu'il est mis singulièrement. Je crois qu'il a acheté son pourpoint en Italie. Ses hauts de chausses circulaires en France, son bonnet en Allemagne et ses manières partout pays. Nerissa. Que pensez-vous du seigneur écossais, son voisin? Portia. Qu'il est plein de charité pour son voisin, car il a emprunté un soufflet de l'anglais et a juré de le lui rendre quand il pourrait. Je crois que le français s'est rendu sa caution et s'est engagé pour un second. Nerissa. Comment trouvez-vous le jeune allemand, le neveu du comte de Saxe? Portia. Fort déplaisant le matin quand il est à jeun, et bien plus déplaisant encore le soir quand il est ivre. Lorsqu'il est au mieux, il est un peu plus mal qu'un homme. Et quand il est le plus mal, il est en soi peu mieux qu'une bête. Et m'arriva-t-il du pis qui puisse arriver, j'espère trouver le moyen de me défaire de lui. Nerissa. S'il se présentait pour choisir, elle qui prit le bon coffre, ce serait refuser d'accomplir les volontés de votre père que de refuser sa main. Portia. De crainte que ce malheur extrême n'arrive, mais je te prie sur le coffre posé un grand verre de vin du Rhin, car si le diable était dedans, et cette tentation au dehors, je suis sûre qu'il le choisirait. Je ferais tout au monde, Nerissa, plutôt que d'épouser une éponge. Nerissa. Vous ne devez plus craindre d'avoir aucun de ces messieurs. Ils m'ont fait part de leur résolution. C'est de s'en retourner chez eux et de ne plus vous importuner de leurs recherches, à moins qu'ils ne puissent vous obtenir par quelque autre moyen que celui qu'a imposé votre père, et qui dépend du choix des coffres. Portia. Dussé-je vivre aussi vieille que la Sibylle, je mourrai aussi chaste que Diane, à moins qu'on ne m'obtienne dans la forme prescrite par mon père. Je suis ravie que cette cargaison d'amoureux se montre si raisonnable, car il n'en est pas un parmi eux qui ne me fasse soupirer après son absence et prier Dieu de lui accorder un heureux départ. Nerissa. Ne vous rappelez-vous pas, madame, que du vivant de votre père, il vint ici à la suite du marquis de Montferrat, un vénitien instruit et brave militaire. Portia. Oui, oui, c'était Bassanio, c'est ainsi, je crois, qu'on le nommait. Nerissa. Cela est vrai, madame. Et de tous les hommes sur qui se soient jamais arrêtés mes yeux peu capables d'en juger, il m'a paru le plus digne d'une belle femme. Portia. Je m'en souviens bien, et je me souviens aussi qu'il mérite des éloges. Entre un valet. Qu'est-ce? Quelle nouvelle? Le valet. Les 4 étrangers vous cherchent, madame, pour prendre congé de vous, et il vient d'arriver un courrier qui en devance un 5e, le prince de Maroc. Il dit que le prince, son maître, sera ici ce soir. Portia. Si je pouvais accueillir celui-ci, d'aussi bon cœur que je vois partir les autres, je serais charmée de son arrivée. S'il se trouve avoir les qualités d'un saint et le teint d'un diable, je l'aimerais mieux pour confesseur que pour l'épouseur. Allons, Nerissa, et toi, au valet, marche devant. Tandis que nous mettons un amant dehors, un autre frappe à la porte. Ils sortent. Scène 3. Venise, une place publique. Entre Bassanio, Shylock. Shylock. 3 000 ducats? Bien. Bassanio. Oui, monsieur, pour 3 mois. Shylock. Pour 3 mois? Bien. Bassanio. Pour lesquels, comme je vous disais, Antonio s'engagera. Shylock. Antonio s'engagera? Bien. Bassanio. Pourrez-vous me rendre service? Me ferez-vous ce plaisir? Aurais-je votre réponse? Shylock. 3 000 ducats pour 3 mois et Antonio engagé. Bassanio. Votre réponse à cela? Shylock. Antonio est bon. Bassanio. Auriez-vous ouï dire quelque chose de contraire? Shylock. Oh non, 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 non. En disant qu'il est bon, je veux seulement vous faire comprendre qu'il est suffisamment sûr. Cependant, ses ressources reposent sur des suppositions. Il a un vaisseau frété pour Tripoli, un autre dans les Indes, et en outre, j'ai appris sur le Rialto qu'il en avait un troisième au Mexique, un quatrième en Angleterre, et d'autres entreprises encore de côté et d'autre. Mais les vaisseaux ne sont que des planches, les matelots que des hommes. Il y a des rats de terre et des radeaux, et des voleurs d'eau comme des voleurs de terre. Je veux dire qu'il y a des pirates, et puis aussi les dangers de la mer, les vents, les rochers. Néanmoins, l'homme est suffisant. 3 000 ducats, je crois pouvoir prendre son obligation. Bassanio. Soyez assuré que vous le pouvez. Shylock. Je m'assurerai que je le peux. Et pour m'en assurer, j'y réfléchirai. Puis-je parler à Antonio? Bassanio. Si vous vouliez dîner avec nous. Shylock. Oui, pour sentir le port, pour manger dans l'habitation dans laquelle votre prophète, le Nazaréen, à part ses conjurations, fait entrer le diable. Je veux bien faire marché d'acheter avec vous, faire marché de vendre avec vous, parler avec vous, me promener avec vous, et ainsi de suite. Mais je ne veux pas manger avec vous, ni boire avec vous, ni prier avec vous. Quelle nouvelle sur le Rialto? Mais qui vient ici? Bassanio. C'est le seigneur Antonio. Entre Antonio. Shylock à part. Comme il a l'air d'un hypocrite publicain. Je le hais parce qu'il est chrétien, mais je le hais bien davantage parce qu'il a la basse simplicité de prêter de l'argent gratis et qui fait baisser à Venise le taux de l'usance. Si je puis une fois prendre ma belle, j'assouvirai pleinement la vieille aversion que je lui porte. Il hait notre sainte nation, et dans les lieux d'assemblée des marchands, il invective contre mes marchés, mes gains bien acquis qu'il appelle intérêts. Maudite soit ma tribu si je lui pardonne. Bassanio. Shylock, entendez-vous? Shylock. Je me consulte sur les fonds que j'ai en main pour le moment, et autant que ma mémoire peut me le rappeler, je vois que je ne saurais vous faire tout de suite la somme complète de 3 000 ducats. N'importe, Tubal, un riche hébreu de ma tribu, me fournira ce qu'il faut. Mais doucement, pour combien de mois les voulez-vous? À Antonio. Maintenez-vous en joie, mon bon seigneur. C'était de votre seigneurie que nous nous entretenions à l'instant même. Antonio. Shylock, quoique je ne prête ni n'emprunte à l'intérêt, cependant pour fournir aux besoins pressants d'un ami, je dérogerai à ma coutume. À Bassanio. Est-il instruit de la somme que vous désirez? Shylock. Oui, 3 000 ducats. Antonio. Et pour 3 mois? Shylock. J'avais oublié, pour 3 mois. Vous me l'aviez dit, à la bonne heure. Faites votre billet et puis je verrai. Mais écoutez. Il me semble que vous venez de dire que vous ne prêtez ni n'empruntez à intérêt. Antonio. Jamais. Shylock. Quand Jacob faisait paître les brebis de son oncle Laban, ce Jacob, au moyen de ce que fit en sa faveur sa prudente mère, fut le troisième possesseur des biens de notre saint Abraham. Oui, ce fut le troisième. Antonio. À quel propos revient-il ici? Prêtait-il à intérêt? Shylock. Non, il ne prêtait pas à intérêt, non, si vous voulez, pas précisément à intérêt. Remarquez bien ce que Jacob faisait. Laban et lui étaient convenus que tous les nouveau-nés qui seraient rayés de deux couleurs appartiendraient à Jacob pour son salaire. Sur la fin de l'automne, les brebis étant en chaleur allaient chercher les béliers, et quand ces couples portant toison, en étaient arrivés au moment de consommer l'œuvre de la génération, l'heureux hébergé vous levait l'écorce de certains bâtons, et dans l'instant précis de l'acte de nature, les présentait aux brebis échauffées, qui, concevant alors, quand le temps de l'enfantement était venu, mettaient bas des agneaux bariolés, lesquels étaient pour Jacob. C'était là un moyen de gagner, et Jacob fut béni du ciel, et le gain est une bénédiction, pourvu qu'on ne le vole pas. Antoine. Jacob, monsieur, donnait là ses services pour un salaire très incertain, pour une chose qui n'était pas en son pouvoir de faire arriver, mais que la seule main du ciel règle et façonne à son gré. Ceci a-t-il été écrit pour légitimer le prêt à intérêt? Votre or et votre argent sont-ils des brebis et des béliers? Shylock. Je ne saurais vous dire. Du moins, je les fais engendrer aussi vite. Mais faites attention à cela, Seigneur. Antonio à Bassanio. Et vous remarquez, Bassanio, que le diable peut employer à ses fins les textes de l'Écriture. Une méchante âme qui s'autorise d'un saint témoignage ressemble à un scélérat qui a le sourire sur ses lèvres, à une belle pomme dont le cœur est pourri. Oh, de quel beau dehors se couvre la friponnerie. Shylock. 3 000 ducats, c'est une bonne grosse somme. 3 mois sur les 12, voyons un peu l'intérêt. Antonio. Eh bien, Shylock, vous serons-nous redevables? Shylock. Seigneur Antonio, maintes et maintes fois vous m'avez fait des reproches au Rialto sur mes prêts et mes usances. Je n'y ai jamais répondu qu'en haussant patiemment les épaules, car la patience est le caractère distinctif de notre nation. Vous m'avez appelé mécréant, chien de coupe-gorge, et vous avez craché sur ma casaque de juif. Et tout cela parce que j'use à mon gré de mon propre bien. Maintenant, il paraît que vous avez besoin de mon secours. C'est bon. Vous venez à moi alors et vous dites « Shylock, nous voudrions de l'argent. » Voilà ce que vous me dites, vous qui avez expectoré votre rhume sur ma barbe, vous qui m'avez repoussé du pied, comme vous chasseriez un chien étranger venu sur le seuil de votre porte. C'est de l'argent que vous demandez. Je devrais vous répondre. Dites, ne devrais-je pas vous répondre ainsi? Un chien a-t-il de l'argent? Est-il possible qu'un roquet prête 3 000 ducats? Ou bien irais-je vous saluer profondément et dans l'attitude d'un esclave, vous dire d'une voix basse et timide? Mon bon monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier. Vous m'avez donné des coups de pied un tel jour, et une autre fois, vous m'avez appelé chien. En reconnaissance de ces bons traitements, je vais vous prêter tant d'argent. Antonio. Je suis tout prêt à t'appeler encore de même, à cracher encore sur toi, à te repousser encore de mon pied. Si tu nous prêtes cet argent, ne nous le prête pas comme à des amis, car l'amitié a-t-elle jamais exigé qu'un stérile métal produisit pour elle dans les mains d'un ami? Mais prête plutôt ici à ton ennemi. S'il manque à son engagement, tu auras meilleure grâce à exiger sa punition. Shylock. Eh, mais voyez donc comme vous vous emportez. Je voudrais être de vos amis, gagner votre affection, oublier les avanies que vous m'avez faites, subvenir à vos besoins présents, et ne pas exiger un denier d'usure pour mon argent, et vous ne voulez pas m'entendre. L'offre est pourtant obligeante. Antonio. Ce serait en effet par obligeance. Shylock. Et je veux la voir, cette obligeance. Venez avec moi chez un notaire, me signer un simple billet. Et pour nous divertir, nous stipulerons qu'en cas que vous ne me rendiez pas, à tel jour et lieu désigné, la somme ou les sommes exprimées dans l'acte, vous serez condamné à me payer 1 livre juste de votre belle chair, coupée sur telle partie du corps qui me plaira choisir. Antonio. J'y consens, ma foi, et en signant un pareil billet, je dirais que le juif est rempli d'obligeances. Bassanio. Vous ne ferez pas pour mon compte un billet de la sorte. J'aime mieux rester dans l'embarras. Antonio. Et ne craignez rien, mon cher. Je n'encourrai pas la condamnation. Dans le courant de ces 2 mois-ci, c'est-à-dire encore 1 mois avant l'échéance du billet, j'attends des retours pour 9 fois sa valeur. Shylock. Ô père Abraham, ce que c'est que ces chrétiens! Comme la dureté de leur procédé les rend soupçonneux sur les intentions des autres. Dites-moi, s'ils ne payaient pas au terme marqué, que gagnerais-je en exigeant qu'ils remplissent la condition proposée? 1 livre de la chair d'un homme, prise sur un homme, ne me serait pas si bonne ni si profitable que de la chair de mouton, de bœuf ou de chèvre. C'est pour m'acquérir ses bonnes grâces que je lui fais cette offre d'amitié. S'il veut l'accepter, à la bonne heure. Sinon, adieu. Et je vous prie de ne pas mal interpréter mon attachement. Antonio. Oui, Shylock, je signerai ce billet. Shylock. En ce cas, allez m'attendre chez le notaire. Donnez-lui vos instructions sur ce billet bouffon. Je vais prendre les ducats, donner un coup d'œil à mon logis que j'ai laissé sous la garde très peu sûre d'un négligent coquin, et je vous rejoins dans l'instant. Il sort. Antonio. Dépêche-toi, aimable juif. Cet hébreu se fera chrétien. Il devient traitable. Bassanio. Je n'aime pas de belles conditions accordées par un misérable. Antonio. Allons, il ne peut y avoir rien à craindre. Mes vaisseaux arriveront un mois avant le terme.